Faut-il éviter le minimalisme pour éviter les blessures? Ce n'est pas forcément la question qui m'a été posée, mais en tout cas, c'est le sens de la remarque qui a été faite à la personne qui m'a posé la question. Allez, je vous explique ça tout de suite. C'est parti. Bonjour, bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouveau numéro du Conseil. Tous les samedis, je propose un épisode qui est une réponse à une question reçue sur la course, l'entraînement, le mode de vie, le mental, la préparation des objectifs et l'organisation. C'est un bout d'un format question-réponse plus long que je propose tous les vendredis dans le Hamster Running Club, la communauté bienveillante autour du podcast pour vous aider à relever vos défis personnels. Le lien dans la description de l'épisode. Et aujourd'hui, la question vient de Zizou, qui me disait, j'ai répondu en partie dans ce vendredi dans la vidéo du Hamster Running Club, mais là je vous fais une réponse un petit peu plus structurée, parce que je les prends à la volée en fait dans la vidéo du vendredi, là je le fais un peu plus structuré. Il me dit, je me suis mis à la course à pied, il me semble que je vais continuer un petit moment, donc va venir le choix des chaussures. Donc ça c'est Zizou qui me dit ça. En effet, je commence à atteindre les 10 km. Aujourd'hui, je me chausse au quotidien avec des Saguaro ou Mireille Glove, minimaliste donc, je les utilise pour les sorties de running, mais aussi pour le reste, ayant besoin de chaussures. Or, j'ai squatté un entraînement PPG mercredi, et l'encadrant m'a dit que c'était bien comme chaussure pour l'entraînement ou sur piste, mais il fallait éviter sur bitume afin d'éviter les blessures. Mais je ne sais pas vers quelle chaussure m'orienter, j'ai essayé des modèles avec des semelles, me paraissent tellement épaisses et les chaussures tellement plus lourdes que je me sens bizarre quand je les essaye, mais c'est vrai que je ne vois personne en minimaliste sur les courses. Est-ce qu'on peut courir en minimaliste? Et si oui, pourquoi les magasins n'en vendent pas? Et il me dit, il me semble avoir vu un coureur d'entre 24 heures le faire pieds nus. Alors, ça, c'est vraiment une question qui est vraiment très intéressante. Je vais vous donner mon avis là-dessus. On fait juste une petite pause publicitaire. Car oui, je vous rappelle, c'est la pub qui me permet de financer ma vie de podcasteur sportif, de devenir moi aussi champion du monde de mon monde. Et après, je vous donnerai mon avis vraiment sur ces questions parce qu'il y a vraiment plusieurs éléments à prendre en compte. Allez, c'est parti.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Donc comme je disais, c'est une question qui est vraiment très intéressante, hein, vraiment très intéressante, car en fait elle permet de mettre en lumière un problème avec le minimalisme, mais qui n'est pas qu'avec le minimalisme en fait, qui est avec tout ce qui sont les techniques de course, les pratiques, les habitudes, etc., qu'on pourrait avoir avec le cardio, qu'on pourrait avoir avec plein de thématiques, hein, même le débat que j'ai dans le vélo par exemple, entre les chamblères, le tubeless et compagnie, c'est finalement en fait la réputation de certaines pratiques, de certains outils, de certains matériels, la perception aussi qu'en ont les personnes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est d'essayer de remonter à pourquoi est-ce que l'encadrant dit qu'on peut avoir des blessures quand on court sur bitume avec des chaussures minimalistes. Bon, il y a une certaine logique, hein, j'ai envie de dire, c'est qu'on se dit que si je mets une semelle absorbante sous le pied, ça va absorber les chocs. Voilà, donc c'est logique qu'on absorbe les chocs, que ce qui provoquerait les blessures, ce sont les chocs. Donc la logique, en fait, c'est tout à fait logique, hein, de penser que plus la semelle sera épaisse, plus ça va absorber les chocs, moins il y aura de blessures et donc ça ira mieux. Mais on pourrait y voir aussi des effets négatifs à ça, en fait, en disant que finalement, si on augmente la hauteur de la semelle, est-ce que finalement on ne crée pas aussi un déséquilibre du fait qu'on soit plus haut, par exemple? Est-ce que c'est pas une hauteur de semelle importante qui pourrait créer des entorses? Là, vous allez me dire, ouais, t'es sûr de ton truc? Bah, je dis pourquoi pas. Je dis, le pied, il part vers l'extérieur. Moi, je sais que j'avais le cas. Si le pied tombe de plus haut, si on met une chaussure, par exemple, qui a 3 cm d'épaisseur et que le pied tombe de plus haut, la rotation qui va se faire sur la cheville ou sur le genou ou sur la jambe entièrement peut être plus importante que sur une Vibram Five Fingers, une Saguaro ou une Mireille Glove qui ont que de la semelle et dans lequel finalement on peut pas avoir le pied qui sort. Je sais que moi, c'est pour ça que je cours en escalante, justement pour réduire cet écart, parce que mon pied en fait sortait sur l'extérieur et me provoquait ces tensions. C'est, voilà, je vous renvoie à la première saison du podcast. Donc là, comment ça on le vérifie? Le problème, c'est ça, c'est vraiment de dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, etc. Et beaucoup de choses, en fait, sont basées sur des on-dit, sur des réputations. Et je vais vous donner l'exemple de ce qui s'est passé pour Vibram, pour le minimalisme, et d'où peut venir cette remarque. À la suite de la sortie du livre Born to Run, beaucoup de lecteurs ont été suivis par l'approche défendue par McDougall et compagnie. Et on voulait adopter le minimalisme et notamment les Vibram Five Fingers. Il faut dire que Vibram a vraiment surfé sur la vague du livre. Le livre, dans Born to Run, l'auteur, en fait, il va voir différents coureurs, il y a les Vibram, etc. Mais il y a aussi les semelles, les sandales, je veux dire, il va voir les Tarahumaras, il va courir avec les Indiens du Mexique, etc., qui courent en sandales. Donc, il y a des marques de sandales. J'ai fait des épisodes sur le sujet. On a parlé du sandales, on a parlé de la course pied nu, on a parlé des... Tous les sujets, je les ai abordés dans le podcast. Et en fait, Vibram a vraiment surfé sur la vague du livre. Ils ont bien joué le coup. Ils ont fait des pubs avec des photos, des chaussures, donc des five fingers avec les deux petits doigts séparés, avec des pieds nus à côté. Et ils ont fait un site éducatif pour expliquer la conversion. Ils ont mis des arguments, en fait, hein, vraiment mis des arguments, pour expliquer qu'en fait, bah, finalement, il y avait beaucoup de bénéfices à courir avec des chaussures comme ça, qui étaient comme du pied nu, mais pas pied nu, parce que ça permettait quand même d'avoir une protection contre les petites blessures, etc. Il y a pas amorti, mais il y a une protection contre un bout de verre, une petite écharde, des choses comme ça. Et donc, à ce moment-là, après, il y a plein de gens qui ont adopté, parce que le livre est un gros succès. Vibram a bien communiqué, ils ont fait beaucoup, beaucoup de ventes derrière. Et donc, bah forcément, il y a des personnes qui ont été déçues. Alors, on a commencé à lire qu'il aurait pu y avoir des blessures, qu'il aurait pu y avoir aussi des plaintes de gens qui sont plaints. Moi, j'avais lu à un moment, oui, il y a des gens qui sont blessés, des gens qui mettent le pied sur un caillou et tout. Moi, franchement, en Five Fingers, la première fois que j'ai mis un pied sur un caillou, oui, je l'ai senti passer, mais je sais pourquoi aussi. Pourquoi ? C'est justement, et je l'en parlerai plus loin, c'est que souvent, en fait, le problème, il vient pas de la chaussure, et quel que soit le modèle de chaussure que l'on prend, il vient souvent de comment on l'utilise. Mais Vibram a eu un risque de procès aux États-Unis avec des motifs invoqués qui étaient les allégations de Vibram disant que ses chaussures minimalistes, par exemple, renforçaient les muscles des pieds et des jambes, amélioraient l'amplitude des chevilles, des pieds et des orteils, stimulaient les fonctions neuronales qui sont importantes pour l'équilibre et l'agilité. Ce qui est logique, hein, c'est les petits capteurs sous les pieds. Qu'ils éliminent l'élévation du talon, qui aligne la colonne vertébrale et améliore la posture, et permettent aussi aux pieds et au corps de bouger naturellement. Ça, c'était leurs arguments. Et en fait, ben, il y a une plaignante, notamment, qui a dit que ça, c'était faux. C'était faux. Et donc, il a commencé à avoir en fait des menaces, etc. Et ben, ils ont négocié un accord, parce que les avocats sont... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à chercher des personnes, ont cherché de voir, appeler tous les podologues, voir est-ce que vous avez des blessures, est-ce que vous avez des cas. Et forcément, qu'est-ce qui se passe quand vous appelez un podologue et que vous appelez des podologues et des kinés, qu'est-ce qui se passe? Ils vont avoir des gens qui vont témoigner qu'ils ont pris des five fingers, qu'ils se sont blessés avec les five fingers, et ils vont donc voir des podologues et des gens pour les soigner. Les podologues disent, ah bah tiens, j'ai des gens blessés qui viennent avec des five fingers. Mais en fait, c'est pas un échantillon représentatif. C'est pas parce qu'un podologue, par exemple, ou un kiné, il a 5 personnes qui viennent avec des five fingers en étant blessés, que, en fait, il a les 100% de l'échantillon. C'est pas comme si il y a 5 personnes qui achètent les baskets, ces chaussures-là, ils se blessent. Non, c'est, il a 5 personnes qui sont blessées avec celles-ci, mais peut-être que autour des 5 personnes, dans la même zone des 5 personnes, il y a peut-être qu'il y en a 1000 qui courent sans aucun problème. Mais ça, en fait, il faut faire des études, des vraies études, des études complètes pour le voir. Et en fait, Five Fingers n'avait pas ces études-là. Ils n'avaient pas ces éléments-là. Donc, il y a eu un moment où il y a eu des négociations qui ont été faites comme ça. Ils ont payé des dommages et intérêts, 3,75 millions de dollars quand même à l'époque, 2014, hein, voilà. Non pas parce qu'il y avait blessure, mais parce que la cliente se sentait flouée sur les résultats obtenus, que c'était la publicité mensongère, donc ça correspondait pas en fait aux attentes. Vibram n'a pas pu fournir d'études scientifiques montrant que ses chaussures amélioraient la foulée et la course comme il le disait. Et d'un autre côté, donc les avocats, ils ont chercher des personnes blessées, et à un moment donné, Vibram, ils ont pas pris le risque. Ils ont dit comme ça. Mais ça a laissé une très mauvaise trace, en fait, cette histoire-là. Parce que, il y a eu des blessures, ça, c'est sûr. Est-ce que ça n'a pas amélioré aussi la vie de coureur? Ça, c'est sûr aussi que si. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'études réellement pour le faire. Il n'y a pas vraiment d'études. Aujourd'hui, le consensus médical, beaucoup de personnes en tout cas, c'est, et puis vous savez, la clinique du coureur sur le minimalisme, vous pouvez voir plein de livres, etc., qui en parlent, vous pouvez voir beaucoup de coachs disent, sont d'accord avec ça, que la foulée naturelle est intéressante, c'est, certains vont l'adopter, certains vont pas l'adopter, que on peut la préconiser pour récupérer certaines blessures, que marcher pieds nus a des bienfaits, que courir pieds nus pourrait avoir des bienfaits, pourrait aussi, pour certaines personnes, faut pas du tout le faire. Ça, c'est un vrai débat qu'on peut avoir. C'est un débat aussi qu'on aura dans une mine perf dans pas très longtemps sur le progrès, finalement, comment est-ce qu'on cerne le progrès, les différences dans le progrès, etc. Il y a des avis opposés. Ça, c'est sûr. Le problème, c'est que pour se faire un avis vraiment là-dessus, il faudrait avoir des vraies études. On sait, on est d'accord avec ça. Les marques, leur intérêt, c'est pas de blesser leurs clients. Elles vont pas faire des chaussures pour blesser les clients. Ce que vont faire les marques, en fait, c'est de chercher des chaussures qui vont permettre aux coureurs de courir, aux sportifs de bouger et tout, avec des belles chaussures, avec une augmentation de la performance, etc. Eux, ils le font par un prisme technologique. Leur prisme technologique, c'est de dire, on pense que la technologie permet d'améliorer ce que le pied est capable de faire. Mais le prisme de ceux qui courent en minimalisme, c'est de dire, on pense qu'on n'a pas besoin de la technologie pour faire quelque chose, pour améliorer un truc. Il faut d'abord commencer par améliorer le fonctionnement du corps en revenant à un fonctionnement naturel du pied avec le rebond. Et là, je vous renvoie sur l'épisode que j'ai fait sur le barfoot. Il y a le livre complet, on en parle dans le truc, je mettrai des liens dans l'épisode. C'est vraiment là-dessus, il y a un débat en fait. Le débat, il est vraiment là-dessus. Il est de dire, finalement, le corps, la fonction de rebond du pied, de nos pieds, ont 20% de nos muscles hein, ou de nos os, enfin grosso modo, donc représentent une grosse partie de notre corps dans une petite surface parce que c'est un élément qui est extrêmement puissant, extrêmement compliqué, qui est très, 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 très bien foutu, mais vraiment très bien foutu, qui va forcément, qui est ramifié avec le reste du corps. Et donc, il y a un fonctionnement de ressorts, il y a tout un tas de systèmes et que les chaussures nous empêchent peut-être d'en profiter et donc en revenant à ce fonctionnement naturel, on devient finalement plus à l'aise peut-être plus rapide, plus puissant, plus je sais pas quoi. Ça, ce sont les allégations telles que l'on les a dans le minimalisme. Et les tenants finalement de la technologie disent oui, mais la technologie nous permet de faire autrement et nous permet de faire plus. C'est d'ailleurs pour ça que là, tout de suite, on est sur la vague carbone. Mais sur la vague carbone, en fait, on est en train de se demander si le rebond provoqué par les chaussures carbone, finalement, ne va pas provoquer des blessures. Et en tout cas, des blessures sur des coureurs qui n'ont pas l'habitude. Et ça, c'est vraiment un truc important. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que tout le monde a sa vision. Bien sûr, vous avez les extrémistes, etc. Mais la vision, c'est de dire, le fabricant, lui, il n'a pas intérêt à blesser ses clients. Mais que ça soit Vibram en minimaliste ou que ce soit Nike, Adidas ou quoi que ce soit avec des chaussures maximalistes. Il n'y en a aucun qui a cet intérêt-là, en fait. L'intérêt, en fait, c'est que les gens, ils soient contents de leurs chaussures, qu'ils les recommandent régulièrement, qu'ils soient heureux de courir avec, et plus ils courent et tout, et plus ils vont en vendre. Donc là-dessus, tout le monde est d'accord, en fait. Mais c'est juste qu'ils ont un prisme d'attaque du problème qui est différent. Donc ça, c'est déjà un point. Après, le problème, c'est qu'on n'a pas de vue long terme sur les choses. On n'a pas vraiment d'études d'impact. Je parlais du carbone. Carbone est trop récent pour qu'on ait une étude d'impact de savoir s'il y a un coureur qui court en carbone, par exemple, une ou deux fois par semaine, par exemple, est-ce que dans 3 ans ou 4 ans ou dans 5 ans, est-ce qu'il sera pas blessé, est-ce qu'il n'aura pas certaines blessures qui vont apparaître en disant bah, le rebond a provoqué ça, fait ça, fait ça. Pour l'instant, c'est trop tôt. On l'a pas. Alors le minimalisme, on se dit oui, mais on devrait l'avoir. Ça date de 2014, 2015, Vibram, etc. Je parle de trucs. Ben en fait, à l'échelle du temps, c'est pas grand-chose, quoi. C'est un peu pour reprendre l'image qu'avait donnée, je crois que c'est Fabrice Kuhn. Si on regarde à l'échelle de l'humanité, si l'humanité c'était une année, on serait plutôt dans la dernière seconde. Donc dans la dernière seconde, on peut pas vraiment se faire une idée réellement de ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'un coureur qui court en minimaliste, par exemple, depuis 5-6 ans? Comment seront ses pieds dans 10 ans? Ça, on le sait pas encore. Il n'y a pas assez d'études sur le long terme, des études longitudinales, sur assez de monde, etc., pour montrer, en fait, l'impact réel. Donc, que ce soit sur le carbone, le maximalisme, sur le minimalisme ou quoi que ce soit, la taille des études, les échantillons, la durée des études, on ne les a pas. On ne les a pas. En fait, on n'a que des études assez courtes sur des échantillons assez petits. Et finalement, beaucoup de ceux qui donnent leur avis ne connaissent finalement que des informations qui sont assez partielles. Et déjà, on a assez peu d'études qui sont faites. En plus, il y a des informations qui sortent. Hein. Vous cherchez Vibram blessure, vous allez trouver plein d'articles. Vous cherchez carbone blessure, vous allez trouver plein d'articles. Et donc, chacun va aller chercher des informations, trouver ce qui lui plaît. Là, nous, au milieu, on est un petit peu là-dedans à devoir faire un choix. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'avec Laure, dans une mid-perf, on en parlera de justement ce débat-là, de comment on fait ça. Et puis, on en parlera aussi sur d'autres sujets comme l'alimentation dans sport et nutrition un jour, parce que c'est vraiment, vraiment un point qui est central. Et maintenant, comment, finalement, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Pour répondre à ta question, Zizou, finalement, est-ce que tu dois vraiment prendre des chaussures maximalistes ou plus maximalistes? Je dis pas des chaussures très maximalistes. Est-ce qu'il n'y a pas des intermédiaires? Comment tu dois faire? Ben, c'est un problème, en fait, qu'on pourrait aussi renverser dans l'autre sens. Hein, c'est que finalement, si vous courez avec des chaussures qui sont un peu épaisses, que vous trouvez peut-être un peu épaisses, un peu lourdes, est-ce que vous ne pourriez pas passer sur des chaussures plus légères? Quoi que vous fassiez, dans tous les cas, et que ça soit pour passer du minimalisme au carbone, que ce soit pour passer du maximaliste à du carbone, que ce soit pour passer du maximaliste à du minimaliste, que ce soit pour passer même, j'ai envie de dire, alors minimaliste à pieds nus, non, on n'aurait pas trop, mais de chaussures ni moyennes à des chaussures plus légères, etc. Dans tous les cas, c'est le problème de l'adaptation. La plupart des coureurs qui se blessent en minimaliste ne prennent pas le temps de s'adapter à la chaussure minimaliste. Mais j'ai envie de dire, ça serait pareil pour quelqu'un qui se met à courir tout d'un coup avec des chaussures carbone et qui va se mettre à faire plein de kilomètres en carbone. Il risque de se blesser s'il n'a pas la technique habituée, s'il n'habitue pas son corps, etc. Je vais pas prendre une chaussure de paire carbone comme ça, qui a un gros rebond, alors que d'habitude je cours avec des chaussures plus molles et tout, et m'attendre à ce que mon corps il réagisse exactement de la bonne manière. C'est pas logique. Si on passe d'une chaussure à semelle épaisse avec un drop important, donc ça veut dire que le talon est surélevé, à des five fingers qui ont juste une semelle et pas de drop, forcément, on va comprendre que l'équilibre du corps global est totalement modifié. L'équilibre, les muscles doivent s'adapter, les tendons vont devoir se rallonger parce que c'est le tendon, il va travailler plus, hein, l'amplitude du pied, etc. Rappelez-vous l'argument qui est donné quand même par Five Fingers. Et c'est vrai, il est vrai cet argument-là. Donc ça veut dire que sur les tendons, ça va tirer. On dit oui, ça fait mal aux tendons, ça crée des tendinites, tendons d'Achille, etc. Mais en fait, il y a un renforcement qui doit se faire au niveau du pied, au niveau des tendons, au niveau des muscles, qui dépend des nouvelles contraintes qu'on est en train de leur mettre, en fait. C'est-à-dire que notre corps il s'habitue à des contraintes. La contrainte qu'on a sur une chaussure qui a un drop de 10 par exemple, c'est de dire que bah, le tendon, le pied descend jamais à son maximum, donc il n'y a jamais la tension maximum, et que quand on passe tout d'un coup, qu'on rajoute un centimètre de tension, on va bien comprendre que tout d'un coup on tire plus sur l'élastique. Hein, on tire plus sur l'élastique. Donc l'élastique, s'il n'est pas assez solide, c'est normal qu'il craque à un moment donné. Mais on peut le renforcer, cet élastique. C'est notre corps. On peut le renforcer. Alors, les tendons, ça met un peu de temps à se renforcer. Ça prend du temps. Vibram préconisait 10 semaines d'adaptation. J'ai fait un épisode avec Johan Rock, qui court en sandales. Lui me disait, il a mis 2 ans pour vraiment s'adapter aux sandales. Mais là, maintenant, il veut traverser les États-Unis en courant et tout. Là, il est en train de partir. Donc, c'est possible, je veux dire, c'est totalement possible. Lucille Woodward, qui en parle régulièrement dans ses contenus, à qui j'échange de temps en temps, qui est dans une transition, elle, de plusieurs mois, me disait qu'elle a des chaussures, elle courait des chaussures l'autre jour, des Zeros, je crois. Elle fait 10 kilomètres, elle était super heureuse et tout de pouvoir le faire. Alors que, il y a quelques mois, elle pouvait faire peut-être qu'un kilomètre avec des ultra escalantes, et puis qu'avant, elle n'arrivait pas à courir avec d'autres trucs, elle se blessait avec d'autres choses, et elle avait fait une fracture de blessure avec d'autres chaussures et tout. Mais elle a pris le temps de se documenter, de faire plein de choses, de faire ça, de voir, de progressivement, d'habituer, se documenter. Il y a des stages qui sont organisés par des gens, type clinique du coureur, des stages de course et tout, la foulée minimaliste. Vraiment, il y a plein de choses là-dessus, mais ça prend du temps, ça prend du temps. Et le problème, en fait, c'est que la plupart du temps, ce qu'on fait, et on fait tous ça, ce truc, on achète une paire de chaussures et on veut la mettre tout de suite pour la tester tout de suite, on va partir comme si c'était notre ancienne paire de chaussures. Et en fait, ça a relativement peu d'incidence si on passe du même modèle, si on prend un vieux modèle à un nouveau modèle, ça a relativement peu d'incidence. Ça a un peu d'incidence si on passe d'une marque à l'autre, ou des fois les équipes sont un peu différentes, on sent qu'on n'est pas tout à fait positionné pareil. Moi déjà, entre deux paires d'Altra, j'ai pas la même position. Il y en a qui sont plus molles, il y en a qui sont plus épaisses, il y en a qui sont plus dynamiques, il y en a qui sont vraiment plus hautes et tout. C'est pas déjà le même truc. Même entre un modèle ancien qu'on a bien usé et un modèle récent, qui est le même modèle mais qui est récent, on n'a pas les mêmes retours. Et on sent déjà que dans les jambes, des fois, ça peut avoir des incidences, on sent qu'on a déjà un petit écart. Mais ça va vite, parce que finalement, c'est un écart qui est minime. Mais quand on passe de maximaliste à minimaliste, ou si on passait de minimaliste à carbone, ou de chaussures normales à carbone, par exemple, l'écart, il est beaucoup plus important, parce que tout d'un coup, on intensifie l'écart. C'est-à-dire que l'écart, on passe pas d'un tout petit changement. C'est pas un petit changement qu'on fait, c'est un gros changement. Si on enlève un centimètre de drop sur une chaussure, ça veut dire que pour le tendon, c'est un centimètre de plus de travail, hein, finalement. Regardez votre pied, un centimètre, ce que ça représente. Tout d'un coup, l'extension complète que ça lui fait, et l'extension que ça va provoquer aussi sur les mollets, sur les muscles, ça va remonter dans tout le corps, cette histoire-là. Mais c'est sûr que si, et il y en a beaucoup qui l'ont fait, parce que je le sais, j'ai eu des témoignages, j'ai lu beaucoup de choses, et tout le monde le fait, on prend une paire type minimaliste, genre Five Fingers, mais même des ultra minimalistes en zéro drop, hein, sans avoir, ou même des ultra un peu épaisses avec zéro drop, qu'est-ce qui se passe? On dit, waouh, ouais, c'est confortable, je suis bien tout là-dedans, et on part faire son 10 km. Mais on fait 10 km avec des chaussures qui ne sont finalement tellement différent de ça que le corps, il va chercher à compenser, il va travailler différemment et il va travailler dans un système qui n'est pas auquel il n'est pas encore adapté, et donc c'est logique qu'à un moment donné ça coince. Alors, est-ce que ça provoque systématiquement des blessures? Pas forcément, ça peut provoquer des grosses courbatures. Il y a des gens, j'ai eu des témoignages, moi je me rappelle aussi quand j'ai commencé à courir, notamment en Five Fingers, la première fois, grosso modo, pendant 3 jours, j'avais mal, j'ai eu des douleurs que je ne connaissais pas, à des muscles que je ne connaissais pas. La première fois que j'ai fait un trail en Five Fingers, franchement, je dois le dire, j'avais la descente m'a provoqué des douleurs sur au-dessus des genoux, dans les muscles, les bas des cuisses et tout, que je n'avais jamais eu sur d'autres chaussures, tout simplement parce que le pied travaillait d'une manière totalement différente. Et c'est logique. Mais la deuxième fois, c'est mieux passé. La troisième fois, c'est mieux passé. Et petit à petit, le corps s'est adapté. Et maintenant, je peux le faire sans aucun problème. J'ai couru l'an dernier à peu près 20% du temps sur les moments chauds, 20 à 30% du temps pieds nus. J'ai fait des semaines où je courais pieds nus. Et j'ai fait beaucoup de courses en sandales. Et vraiment, c'est ça que je voudrais pointer là-dessus. C'est-à-dire que on entend beaucoup de choses. Mais le truc qui est vraiment important, pour répondre à la question de Zizou, c'est que il faut se rappeler que la course et la santé, globalement, c'est de l'endurance et de l'adaptation sur le long terme. Les différentes parties du corps, d'ailleurs, ne mènent pas le même temps d'adaptation. Il y a des parties du corps qui se réparent plus vite que d'autres. Un os se répare pas à la même vitesse qu'un muscle, ne se répare pas à la même vitesse qu'un tendon. Les tendons, on sait que c'est long, l'adaptation des tendons est très long. Ceux qui souffrent des tendons d'Achille le savent. Les exercices pour les tendons d'Achille, on fait pas un exercice pendant 3 jours, on se dit c'est fini. Moi, j'ai été opéré du ménisque. La blessure, l'opération du ménisque finalement pour m'en remettre, ce qui a été le plus long, c'est que j'ai perdu musculairement beaucoup, donc il y a beaucoup de muscles à refaire. Mais finalement, une fois que ça a été réparé, que non, tout était soudé, en quelques jours, j'ai pu reprendre de la marche, etc. Il y avait une sidération de la jambe, des muscles, qui là, par contre, a demandé du travail au kiné parce que c'est le corps, mais en protection. Donc ça, c'est un élément qui est vraiment extrêmement important. Et puis, à force de ne pas travailler, le corps a perdu en musculation et la reprise de la course a été très longue à ce moment-là parce que tout simplement le corps il fallait qu'il retrouve des adaptations, fallait remuscler la jambe, fallait retrouver les équilibres, j'ai 2 jambes qui avaient pas la même puissance et forcément peut-être que c'est ce qui m'a créé aussi certaines douleurs, certains déséquilibres, etc. Donc ça, je peux pas revenir du jour au lendemain, on le comprend bien dans le cadre d'une blessure. Et ben en fait, faut considérer que quand on change de chaussures avec des extrêmes aussi importants, c'est exactement pareil. Mais pour le cas de Zizou, c'est pareil en fait, de passer d'une chaussure minimaliste dans lequel on est bien à une chaussure qui est plus confortable en apparence, plus maximaliste, etc., qu'on trouve un peu lourde, etc. Ça veut dire que ça rajoute du poids, ça modifie la mécanique de course, ça modifie plein de choses. Et il faut de l'adaptation. Je suis aussi persuadé qu'il faut de l'adaptation pour passer du minimalisme au maximaliste, qu'il faut du maximaliste au minimaliste. C'est juste en fait que j'ai une tendance à dire, par exemple, les tensions sur les tendons vont être réduites, l'absorption va être plus importante, etc. Probablement que des chaussures qui ont un gros amorti, qui ont du gros drop, etc., vont être moins exigeantes dans la transition que des passer de l'inverse, en fait. Ça, j'en suis convaincu. Maintenant, je le répète, l'histoire montre que l'humanité a vécu longtemps sans chaussures et puis sans amorti carrément. L'invention de l'amorti est très récent. Si vous regardez même les premiers modèles de Nike, prenez Forrest Gump, vous regardez Forrest Gump avec quel père il court, des Cortez. On en avait parlé notamment dans un épisode il y a pas très longtemps avec le Forrest Gump français. Si vous essayez de courir avec ces chaussures-là, vous allez voir les Cortez n'ont pas d'amorti dessous. Les chaussures avec lesquelles couraient les coureurs dans les années 60-70 n'avaient pas d'amorti en fait. Il y en avait pas 2 ans. Bien sûr, ils couraient sur piste, etc. Beaucoup. Il y a des courses dehors aussi. Mais on s'est dit, pour courir sur route, c'est mieux d'avoir plus d'amorti. Puis on s'est dit aussi, il y a des blessures, comment courent les coureurs, etc. Donc les marques ont essayé de s'adapter à ça, ont essayé d'accompagner aussi les coureurs, et leur but, c'est pas de blesser les gens, c'est d'apporter des progrès, de faire des recherches, d'apporter du rebond, de sentir qu'on sent mieux, c'est plus léger, qu'on peut plus enchaîner les courses, qu'on peut aller plus vite, moi l'Ultra Boost, la première fois que j'ai mis Adidas Ultra Boost, j'ai dit qu'il y a un rebond sous cette chaussure. Le rebond ne venait pas de mon pied, le rebond venait de la semelle comme des ressorts. Mais quand j'étais gamin, j'ai eu des pumps, j'ai eu des trucs qui se gonflaient, j'ai eu des trucs, des semelles grosses, les Nike Air, quand les Nike Air sont sortis, c'était une révolution ce truc là donc on a toujours connu ça petit à petit. Mais à l'échelle du monde, c'est un temps super court en fait. Moi j'ai 46 ans, donc l'échelle dont je viens de parler, on a l'impression qu'il y a plein de trucs qui existent depuis longtemps, mais en fait à l'échelle du monde, ils existent depuis très très peu. Les coureurs pieds nus, eux, ils ont existé depuis tout le temps. Les chasseurs-cueilleurs existent depuis tout le temps. Les fameux Tarahumaras, dont on parle dans le livre de Born to Run, se blessent avec des chaussures car ils ont l'habitude de courir en sandales. C'est ce que montrent certains documentaires qu'on voit sur eux, où on voit d'ailleurs qu'il y a des marques qui leur envoient des chaussures parce que c'est des très bons coureurs. Je pense notamment à cette jeune fille qui s'appelle Lorena. Il y a un documentaire sur Netflix, je crois, qui doit y être encore, où finalement, on voit que elle court en sandales pour aller à l'école, pour aller faire, je sais pas quoi, les courses, etc. Et que les marques lui envoient des chaussures et qu'elle court sur, elle fait que les courses avec les chaussures, en fait. C'est ça le truc. Et que, à un moment donné, il y a des gens, ils disent, elle se blesse, elle est pas bien, ils sont pas très bien avec. On avait eu des témoignages aussi sur la course on avait parlé justement sur le Mexique, etc. Donc, tout ça, en fait, c'est une réalité aussi. Je veux dire, il y a une réalité, c'est de se dire que quand on n'est pas adapté, quand on prend quelque chose avec lequel on n'a pas l'habitude de courir, que ça soit du matériel, etc., forcément, il y a une adaptation qui doit se faire pour s'habituer. Et j'ai envie de dire, ça va aussi bien du minimalisme au maximalisme que du maximalisme au minimalisme. Et puis, pour répondre à la question de Zizou, oui, il y a bien des gens qui font des courses en minimaliste, en pieds nus, en five fingers. Lors de mon 24 heures, un coureur a fait 144 km pieds nus. D'autres ont fait le 6 heures, d'autres ont fait le 12 heures. J'ai discuté avec un gars qui a couru pieds nus au début, puis après qui est passé sur des aquashoes. Cyril Berfoot, que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps dans le podcast, il court pieds nus, il court en sandales. Il court aussi avec d'autres modèles, on en a parlé. Donc, Je veux dire que ça existe en fait. Ça existe. Il n'y a pas longtemps, Running Addict, que vous connaissez bien, il poste sur son compte Instagram, il met une photo de lui, on le voit en train de souffrir sur un 10 km de préparation qu'il faisait. Et puis derrière, il y a un gars avec les cheveux longs qui est pieds nus, mais qui est vraiment pieds nus. Et tout le monde dit oh, mais le gars derrière toi, il court pieds nus et tout. Alors que Running Addict, lui, il doit courir en carbone, j'imagine. Donc on a d'un côté le carbone, de l'autre côté on a le minimaliste. Et ils sont ensemble dans la même course, en fait, je veux dire. Et après quelques recherches, j'ai regardé le dossard, le gars il termine, c'est un gars qui a l'habitude de courir comme ça, il fait son 10 km en 36 minutes, je crois. Donc ce qui montre d'ailleurs que il court beaucoup plus vite que beaucoup d'autres gens qui devaient avoir des pertes carbone et qui ne savaient pas utiliser, et que finalement, dans l'histoire, il y a l'entraînement, la qualité d'entraînement, la qualité de ce qu'on fait, les éléments de performance, etc. qui vont jouer, que c'est pas que la chaussure, c'est pas parce que vous me donnez à moi une perte carbone que d'un coup, je vais courir le marathon en 2h03, ou 10, ou 15, ou 20, ou même 3h. C'est pas possible, en fait. Donc, cette histoire-là, c'est vraiment une question de dire, il y a des gens qui sont habitués à certains modèles de chaussures, les marques ont leur perspective, les entraîneurs ont leur perspective, etc. Le problème, c'est que là-dedans, il y a beaucoup de on-dit qui se rajoutent. Il y a beaucoup, beaucoup de on-dit qui se rajoutent. Et puis, c'est vrai que il y a aussi, ben, finalement, cette grande croyance populaire qui vient du fait que dire le sport, ça blesse. Oui, ça, ben, le sport, ça blesse. Ben voilà, c'est, on entend ça beaucoup, le sport, ça blesse. Il y a pas assez, les études ne pointent, on montre pas assez les études qui montrent que finalement, courir pieds nus, par exemple, j'avais vu des études, moi, quand j'ai commencé à avoir mal au dos, que le fait de courir, par exemple, quand on a les tassements lombaires, bah, finalement, on va se dire, ouais, mais quand t'as mal au dos, ça va tasser. Et en fait, j'en ai parlé avec ma kiné, je lui dis, mais moi, plus je cours et moins j'ai mal. Elle m'a dit, mais c'est normal, en fait. L'adaptation. Le corps s'adapte, il a besoin, il va se renforcer, mais il va pas se renforcer du jour au lendemain. C'est, si je m'étais mis à courir 20 km tous les jours d'un coup, mon corps aurait craqué. Ça, c'est sûr. Mais en courant un peu, en marchant un peu, en ayant cette alternance d'activité, tout d'un coup, mon corps se remettait dans une activité et il avait compris qu'il fallait s'adapter. Et donc, ça passait vraiment, c'est passé très bien comme ça. Et c'est ça la réalité des choses. Maintenant, c'est vrai aussi que dans la tête des gens, on a tellement vendu le fait que un truc épais, hein, c'est logique. Un matelas, quand il est épais, on a l'impression qu'il est plus efficace qu'un petit matelas. Un gros coussin, on a plus envie de se jeter dedans qu'un petit coussin. Si on doit se jeter d'un immeuble de 3 étages, on espère avoir un gros coussin en bas que d'avoir un tout petit matelas. Hein, ça, c'est logique. Et puis, si on nous dit que finalement, le petit matelas, il est super efficace, mentalement, on se dit non, mais attends, il peut pas être aussi efficace que le gros matelas. Ça, c'est logique. Et donc, pour les fabricants, c'est beaucoup plus facile de vendre des chaussures un peu avec des grosses semelles, du maximalisme, de dire qu'il y a de la technologie, du rebond et tout à l'intérieur. Et pour les marchands de chaussures, c'est aussi beaucoup plus facile. Et c'est pour ça, Zizou, aussi, que tu trouves pas forcément de marchands de chaussures qui vendent des chaussures minimalistes. Mon magasin, là où j'achète, moi, mes chaussures d'habitude, il vendait de la Five Fingers, mais un jour, je lui ai dit, mais j'en vends quasiment pas. Les minimalistes, il en vendait quasiment plus. Il vendait beaucoup de chaussures plus épaisses, plus maximalistes, et encore. Il avait des Altra, etc. Mais même chez Altra, les modèles minimalistes de chez Altra disparaissent. Mon modèle le plus minimaliste de chez Altra n'existe plus. Par exemple, ils l'ont arrêté. Pourtant, la Vanish était un modèle, la Vanish XC que j'avais est un modèle ultra minimaliste, vraiment un régal. Tous ceux qui la portent la trouvent géniale. Il y en a qui la portent même pour aller dans le quotidien tellement ils la trouvent confortable, etc. Sauf que maintenant, en fait, ils la font plus. Ils font même la Vanish, ils la mettent en carbone maintenant avec plus grosse semelle, du carbone, etc. Donc, ils sont à l'inverse, c'est-à-dire qu'ils sont restés sur la chaussure de vitesse en considérant maintenant que le prisme, c'est plutôt d'aller vers ce que les gens vont rechercher aussi, c'est de dire il faut avoir des grosses semelles, un gros truc à l'arrière là qui dépasse, qui est moche en plus. Puis alors, il y a des chaussures carbone, elles font un bruit quand on court avec, ça fait ouing 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 et tout. Bon, bref, ça c'est passons là-dessus. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que un magasin de chaussures, il a besoin de vendre des chaussures. Si 90% des gens, ils veulent avoir des chaussures avec des grosses semelles et du carbone, il va vendre des chaussures avec des grosses semelles et du carbone. Si le marketing des marques pousse plus fort pour les chaussures avec du carbone, des grosses semelles, etc., on va bien comprendre que les magasins aussi vont avoir ça. C'est logique. Et ça marche pas que dans les chaussures, hein, ça marche dans la nutrition. Si vous avez une petite marque nutrition qui fait ces trucs et qui met ça chez les vendeurs, et qu'à côté vous avez une grosse marque qui d'un coup fait de la pub à la télé, les gens voient la pub à la télé, ils vont dans le magasin, ils vont dire « Ah, j'ai vu ça à la télé, vous en avez pas ?» Le vendeur, il va une fois, deux fois, trois fois, et la cinquième fois, il va dire « Attends, il faut que j'ai cette marque-là parce que moi, je dois faire mon chiffre d'affaires. » Donc, c'est logique aussi à un moment donné que ceux qui communiquent, les grandes marques qui ont le plus de moyens communiquent aussi sur les produits et tout. Et Vibram, c'est un petit acteur. Les vendeurs de sandales, c'est des petits acteurs. Et puis, il n'y a aucun vendeur de semelles naturelles, je veux dire, de pieds nus, quoi. Ça n'existe pas, le vendeur de pieds nus. Donc, qui fait la pub, finalement, de la course pieds nus? Il n'y a personne qui peut faire la pub de la course pieds nus, à part des coureurs pieds nus, à part peut-être des kinés, des coachs, des gens qui courent pieds nus. Qui va faire la pub des chaussures minimalistes type Sagaro? Bon, ça c'est chinois, ils font pas de pub. Vibram, c'est une toute petite entreprise quand même, hein, ça reste une petite entreprise à l'échelle du monde. Les fabricants de sandales, Panta Sandales, Luna et compagnie, ça reste des tout petits fabricants. Donc finalement, oui, ils vont faire leur communication. Mais sur la majorité des choses, le message que l'on voit, c'est quand même le message des grandes marques. C'est aussi le message des grandes marques parce que ils ont plus de recherches, parce qu'ils ont fait plein de recherches, parce qu'on voit aussi que ceux qui gagnent les courses, ils sont aussi équipés par ces grandes marques. Hein, et forcément, on se dit, si le premier il a ces chaussures-là, c'est que ça doit être bien. Hein. Après, on regarde pas comment ils s'adaptaient et tout à ça. Donc maintenant, la conclusion de tout ça, c'est que on pourrait dire, Zizou, en fait, c'est que si t'es bien dans tes chaussures minimalistes, moi je vois pas pourquoi tu quitterais tes chaussures minimalistes. Voilà, c'est tout simple. Bien sûr, il y a toujours quelqu'un qui va dire, oh là, tu cours avec ça, c'est trop minimaliste, tu vas te faire blesser, etc. Mais en fait, la réalité des choses, c'est que si tu te sens bien, si tu n'as pas de blessure, si tu n'as pas de douleur, je vois pas pourquoi tu prendrais des chaussures plus épaisses pour les courir sur le bitume. Je ne vois aucune raison. Alors, peut-être, en fait, si tu avais des grandes distances et que d'un coup, tu te sens, par exemple, pas très confortable, que tu considères que, par exemple, tu veux faire un semi-marathon et que tu te rends compte qu'à partir du kilomètre 15, ça chauffe sous les pieds, que tu trouves que c'est trop dur, tu vois, que ça tape un peu trop fort, etc. C'est un peu ce qu'on disait aussi, par exemple, je peux courir minimaliste, j'ai fait marathon, j'ai fait en escalante, j'ai fait les 136 kilomètres du 24 heures, je les ai fait avec deux paires d'escalantes, hein, en tournant sur les escalantes, alors que t'es pas les escalantes les plus récentes, c'est pas les racers qui sont un peu plus raides, elles sont un peu plus molles, mais c'est des chaussures qui normalement étaient vendues par Altra comme étant des chaussures qu'on allait jusqu'au maximum du semi-marathon. Et moi, j'ai fait 136 avec. Donc, ce qui veut dire que en soi, finalement, c'est la chaussure, c'est une chose, c'est le confort qu'on a dans la chaussure qui change aussi, c'est comment on se sent bien et tout. Si tu te sens bien sur des chaussures sur certaines distances, pourquoi tu ne les garderais pas? Si elles te blessent pas, si elles te font pas mal aux pieds, si tu n'as pas de douleur, si tu... Franchement, pourquoi tu... Mais en y allant progressivement, c'est tu passes pas du 10 au 40, voilà, d'un coup. Parce que là, peut-être que au kilomètre 15, tu vas te rendre compte qu'il y a un problème. Et dans ce cas-là, peut-être, tu vas te rendre compte que oui, à partir d'une certaine distance, tu as besoin d'avoir des chaussures qui sont un peu plus protectrices, peut-être un peu plus d'amorti. C'est sûr, par exemple, je le répète, j'ai fait 136 kilomètres avec les escalantes, mais... C'était des terrains du parc, hein, un parc public, donc il n'y a pas de problématique. Si maintenant je vais faire l'UTMB avec des graviers, avec des cailloux, de la roche, etc., avec le terrain comme il est technique, c'est sûr que je prendrai des chaussures qui ont plus d'amorti, qui ont plus de protection du pied, mais qui restent, en tout cas avec la philosophie, moi ce serait des Altra, ce serait toujours du zéro drop, ça serait quand même le modèle... On va dire un peu plus protecteur, un peu plus maximaliste, mais pas le plus de tous, hein, qui en tout cas qui correspondrait, mais qui permettrait d'avoir un confort sur la durée des 170 kilomètres, des 30 et quelques heures qu'il faudrait pour les parcourir. Et donc c'est ça aussi la recherche un petit peu de la chaussure idéale, j'ai envie de dire, c'est qu'elle n'existe pas cette chaussure idéale. En fait, on peut très bien courir pieds nus, on peut très bien courir en sandales, on peut très bien courir en five fingers, en chaussures minimalistes sur certains trucs parce que ça nous fait du bien. On peut très bien aussi prendre des chaussures plus épaisses sur d'autres distances parce que on a besoin de plus de protection parce qu'on se sent mieux aussi comme ça. Parce que sur certains terrains, moi, il y a des terrains, franchement, je le dis, hein, quand je pars en vacances au bord de la mer, on va à Gruissant à côté de Narbonne, il y a des chemins avec des cailloux, des caillasses, il y a les vignes, etc. Courir en sandales là-bas, niette. Courir en five fingers, niette aussi, parce que franchement, on sent tous les cailloux. Là, c'est le genre, les escalantes, c'est pas mal, mais c'est vraiment le genre de terrain où je pourrais amener mes Altra quand une semelle qui est beaucoup plus molle, parce que je ne vais rien sentir. Il y a un terrain là au sud de la maison, l'agriculteur, il a mis des grosses caillasses en plein milieu. Avant, je courais pieds nus dessus, maintenant, je suis incapable de passer, même avec des chaussures plus épaisses, je trouve que ça fait mal aux pieds. Alors que le petit chemin en herbe qui est à côté et qui est tellement agréable et sur lequel je peux le prendre pieds nus en descendant à toute barzingue, etc., lui est beaucoup plus agréable. Et donc, c'est ça aussi la réalité des choses. Moi, je considère, par exemple, que le bitume, ça fait moins mal aux pieds que des cailloux, que des caillasses sur les chemins, etc. Ça fait moins mal aux pieds que de la pierre, ça fait moins mal aux pieds que beaucoup de choses. J'ai couru l'an dernier, je pars de la maison pieds nus, hein, je vais sur mes chemins, etc. Les graviers font plus mal, les cailloux font plus mal que du bitume. Et au niveau des blessures et tout, après, c'est pas tout à fait les mêmes blessures. Mais ce qui est important de vraiment se dire, c'est que ce qui est vraiment, vraiment le cœur de ce que je voulais dire, c'est que c'est une question d'adaptation. C'est une question d'adaptation. Et cette logique de dire, puisque tu cours sur bitume, puisque tu vas courir plus que 10 km, tu dois absolument prendre des chaussures plus protectrices, plus maximalistes, etc. En fait, elle n'est pas fondée sur grand-chose. Parce que finalement, on n'a pas assez de recul, on n'a pas assez d'études, on n'a pas assez de retours. J'ai même vu une étude qui montrait qu'en fait, elle a été faite, ils ont donné des chaussures, des Five Fingers à un groupe de coureurs et puis des chaussures normales à un autre groupe de coureurs. Ils ont fait courir 10 semaines à un des groupes Five Fingers et puis 10 semaines les autres. Ils ont fait des IRM des pieds, ils ont dit, bah, les Five Fingers, ils ont les pieds plus blessés. Mais on dit, ouais, d'accord, et ceux qui courent avec des chaussures normales n'ont pas les pieds blessés, ou il y en avait qu'un qui a des blessures. Donc 1 sur 20 contre eux. 15 ou 17 sur 20. Mais oui, mais 20 personnes, en fait, qui étaient dedans. Donc, sur 10 semaines. Ce qu'on sait pas, c'est que si ça avait duré 20 semaines, 25 ou 30 semaines, dans quel état étaient les pieds? Peut-être que, au bout de 6 mois ou un an, les pieds étaient exactement identiques. Exactement identiques. Et qu'il n'y avait plus de traces de blessures, etc. Sauf que l'étude s'est arrêtée sur 10 semaines. Ben, 10 semaines à l'échelle d'une adaptation. Pourquoi ils avaient fait ça? Parce que c'était le temps d'adaptation promis par Five Fingers, en fait, donc là-dessus. Et peut-être qu'on peut dire que Five Fingers allait jouer un peu avec le feu, parce que si vous dites, vous achetez cette paire de chaussures et votre pied sera vraiment adapté pour aller courir à la distance que vous voulez que dans 2 ans, ils les auraient jamais vendus. Et c'est un peu le problème du marketing. Donc, dans cette histoire-là, moi, je pense, en fait, il faut vraiment distinguer tout ce qui est les on-dits, tout ce qui se dit sur le sujet, etc., de la pratique. Et si vous avez l'habitude de courir en minimaliste, et que vous êtes bien là-dedans, que ça vous provoque pas de blessure, pas de douleur, que vous êtes bien, que vous vous sentez bien avec, et que ça soit sur route, sur chemin, etc., il n'y a pas de raison, à un moment donné, de prendre des chaussures qui soient plus épaisses. Surtout, si ça vous apporte des chaussures qui sont plus lourdes, moins de contact au sol, plus épaisses. Moi, je le dis, hein, je le pense franchement, hein, je dis que sur certaines personnes, des chaussures trop hautes peuvent provoquer des décalages du genou, pourraient provoquer des entorses. Je le pense très sincèrement, je n'ai pas d'études. Donc ça, c'est ma conviction profonde. Et c'est pour ça que moi, par exemple, je reste sur des modèles minimalistes. C'est mon fonctionnement de mon corps. Je sais que en minimaliste, je suis beaucoup mieux que sur des chaussures qui sont trop épaisses et sur lesquelles, en fait, le pied peut se déverser vers l'extérieur et ça va faire des tensions, pas sur mes chevilles chez moi, mais plutôt sur le genou. Voilà, carrément sur le genou. Et je sais que c'est là où j'aurai plus de douleurs, plus de problèmes. Mais ce n'est pas dit que si je courais tous les jours 3-4 km tous les jours pour adapter et puis après de plus en plus longue distance, je n'aurais plus ces douleurs. Et si je préparais un UTMB ou une diagonale des fous avec des chaussures qui soient plus épaisses, eh ben oui, forcément, je m'entraînerai avec des chaussures plus épaisses, avec un amorti plus épais, parce que je me dirais, pour passer les cailloux de tel truc, pour passer les cailloux de tel canyon, ou pour passer tel col, etc., il me faut des chaussures plus épaisses, plus d'accroche, etc. Et je dois me préparer en conséquence, donc je dois m'entraîner sur du long terme à avoir une foulée qui s'adapte et un corps qui soit adapté à ces chaussures. C'est exactement la logique que moi je défends. Je suis plutôt une tendance à dire que minimalisme, c'est cool. Je ne suis pas anti-maximaliste, je ne suis pas anti-carbone, et franchement, je suis pas là-dedans. Je suis plutôt de dire, je suis pas anti-fabricant aussi, en disant les fabricants, ils nous vendent de la bip, hein. Je suis plutôt en train de dire que n'importe quelle chaussure peut être adaptée à n'importe quelle personne, à condition, en fait, de comprendre pourquoi cette chaussure-là elle est adaptée, pourquoi elle pourrait ne pas être adaptée, et quelles sont les adaptations que le choix d'une chaussure va nous amener à faire pour que notre corps arrive tout simplement à être adapté à la pratique que l'on veut et quelle est la pratique que l'on veut et quel est le temps que l'on se donne. Et je pense qu'il faut beaucoup de temps. Voilà, bah écoutez, j'avais plus rien à vous raconter là-dessus, sur ce sujet-là. Je pense que je vous ai fait une belle réponse. Vous avez compris un peu ma logique aussi de l'adaptation et qui est valable sur plein de choses, hein, parce que ça serait pareil si je vous parlais d'alimentation. Si d'un coup je vous dis de manger des légumes avec des fibres et que vous en mangez jamais, que d'un coup je vous mets un gros bol avec plein de fibres dans votre saladier, il est probable que votre ventre ne le supporte pas et que vous me disiez, ben, c'est nul ton conseil. Ben oui, non, il aurait fallu d'adaptation, faire monter petit à petit les choses, etc. Ça serait pareil pour plein de choses dans plein de domaines. Vraiment, exactement. Donc là-dessus, il faut prendre le temps. Et si vous voulez des conseils complémentaires, ben, n'hésitez pas, vous pouvez venir dans le Hamsters Running Club ou m'envoyer un petit message aussi. Je mets un lien dans la description de l'épisode pour le Hamsters Running Club et aussi les sessions de coaching que je vous propose en accompagnement sur vos projets, que ce soit sur de la préparation mentale ou toute la préparation globale autour de vos projets. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Ciao ciao les sportifs.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.